de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 14 décembre 1995.
Expérimente l'eau. pas des principes, c'est des éléments, ce sont des poses. Par le point de vue du mouvement, les deux grands mouvements naturels, c'est le mouvement vers le haut et le mouvement vers le bas. La terre et le feu. Deux mouvements irréductibles. Mais c'est en regardant les qualités élémentaires du toucher, le chaud et l'humide, le chaud et le froid, le sec et l'humide, que nous découvrons les quatre éléments. Et c'est des qualités propres du toucher. Tandis que la montée vers le haut et vers le bas, c'est la vue. Là, ce serait très intéressant à de voir comment ces deux expériences du toucher et de la vue, irréductibles, nous amènent à poser les quatre éléments. Donc c'est à partir de l'expérience sensible, la plus fondamentale, qui est le toucher, que nous expérimentons le chaud et le froid. C'est le toucher, ça. Que nous expérimentons le sec et le vide. Puisque là, il s'agit de qualités naturelles. Il faut donc que ces qualités naturelles, si on veut les saisir, nous manifestent une réalité physique fondamentale. Le feu, chaud et sec. La terre, froide et humide. L'eau. La terre sec, oui, pardon. C'est les deux experts, c'est le point de vue. Le feu chaud et sec. La terre froid et sec. Et les deux autres intermédiaires qui sont proches de la terre et proches, mais qui sont cependant irréductibles, puisque les qualités sont liés différemment. Et c'est en fonction de ces quatre possibilités, à l'égard de ces quatre qualités premières, élémentaires, que nous posons les quatre éléments. C'est ça qui est très curieux, et qui est quelque chose qui est indépendamment de la science, puisque c'est lié à des qualités propres, et que la science, de fait, ne s'occupe pas de ces qualités propres, et regarde le point de vue du mesurable. C'est en ce sens-là que la découverte des qualités, des éléments, est quelque chose de pré-scientifique et d'ordre philosophique. Parfait, parce qu'il ne modifie pas le corps, tandis que modifie le corps. Et donc, est plus proche de l'altération. Et nous fait comprendre l'altération et la contingence. Tandis que le mouvement local ne nous fait pas comprendre l'altération. Et nous fait comprendre le point de vue de la finalité. C'est le mouvement local qui conduit à la fin et qui est lié à la finalité. Tandis que le mouvement d'altération, c'est juste l'inverse de la finalité. C'est la corruptibilité. C'est par l'altération que les corps sont corruptibles. Ce n'est pas par le mouvement local que les corps sont corruptibles. Au contraire, par le mouvement local, les corps sont liés à leur fin. Donc vous voyez, c'est par le mouvement d'altération et le mouvement local que nous découvrons la réalité tangible, visible, radicale et fondamentale. Et ceci ne peut pas être modifié par la connaissance scientifique, qui elle ne repose pas sur ce qu'il y a de tout à fait fondamental, le sens du toucher. Le sens du toucher est utilisé par la philosophie. Le chaud et le froid, le sec et le vide, il n'est pas touché par la science. Ça peut être pour la science des conditionnements, mais pas plus. Ils ne sont pas connus par la science, parce qu'ils ne sont pas mesurables. Il y a quelque chose de très particulier, là, qui permet de poser les quatre éléments comme ce qui constitue tout l'univers. Aristote pose, en plus de ces quatre éléments, la quintessence, c'est-à-dire le cinquième élément. Et il pose le cinquième élément à cause du mouvement local circulaire des astres. C'est la raison profonde pour laquelle il pose ce mouvement circulaire. La raison profonde pour laquelle il pose la quintessence, c'est à cause de ce mouvement circulaire des astres. La régularité du mouvement des astres montre que les astres sont au-delà de l'altération. Donc il y a le dépassement par rapport à l'altération. L'altération, c'est le mouvement des corps sublunaires. Tous ceux qui sont en dessous de la lune. Dans ce sens-là que la lune est l'astre de la corruptibilité. Tandis que le soleil n'est pas l'astre de la corruptibilité. Le soleil, c'est la lumière. Alors là, il y a quelque chose de très particulier. La lumière. Qui est au-delà du mouvement local et du mouvement d'altération. La lumière a quelque chose de tout à fait unique, puisque c'est la lumière qui fait l'unité de notre monde physique. Et donc, la lumière doit provenir, elle aussi, d'une réalité physique, puisque c'est une qualité physique, la lumière. C'est une qualité physique qui fait l'unité du monde physique et qui permet que le monde physique soit visible. Donc, qui actue tous les sensibles propres. C'est un super sensible propre qui est à la racine du point, qui est ce qui du côté du toucher. Vous pouvez toucher dans l'obscurité. Même ordinairement, vous touchez mieux dans l'obscurité. L'obscurité permet à notre sens du toucher d'être le plus aiguisé dans l'obscurité que dans la lumière. Dans la lumière, c'est le sens de la vue qui est le plus aigu, le plus déterminant, qui fait que vous avez moins besoin du sens du toucher. Et ceci fait comprendre comment les aveugles de naissance ont un sens du toucher très développé. C'est le signe que, de fait, le toucher, quand il est premier, pas seulement fondamental, mais premier, se développe énormément. Mais normalement, qu'est-ce qui actue les sensibles propres? C'est la lumière, qui est ce qui détermine notre vision. Alors, la lumière, elle provient de quel élément? Je pourrais dire, voyez, que la lumière provient du feu. Le feu est lumineux. Et le feu n'est plus lumineux quand il est absorbé par la terre. C'est les deux extrêmes. Est-ce que je suis obligé de poser un autre corps quintessence, cinquième élément? Par rapport au sensible, non, le feu suffit. Par rapport au sensible propre, et de la vue. Mais je pose un quintessence à cause du mouvement circulaire. Parce que le mouvement du feu n'est pas circulaire. Le feu monte. Il n'est pas circulaire. Et donc, pour expliquer le mouvement circulaire des astres, Aristote pose la quintessence. Mais ce n'est pas la lumière qui me fait poser la quintessence. C'est le mouvement circulaire. Alors évidemment, il y a un lien entre la quintessence et le point de vue lumineux. Mais ce n'est pas direct. Et ça, je crois que c'est important pour essayer de comprendre si on est obligé de poser la quintessence. Le mouvement circulaire qu'Aristote pose, et qu'il pose comme un mouvement nécessaire, absolument nécessaire, qui fait qu'il est obligé de poser une matière distincte pour les astres que pour les corps physiques. Or, ceci semble démenti par les progrès de la science. Il n'y a pas une matière particulière pour la lune et pour le soleil. Et le mouvement circulaire n'est pas aussi nécessaire qu'Aristote le dit, puisqu'il y a une petite variation. Il apparaît absolument nécessaire. Mais, alors je sais très bien, c'est là la très grosse difficulté, c'est le passage de l'apparaître en philosophie. L'apparaître est lié à la connaissance sensible. Toute connaissance sensible saturation. Alors, est-ce que c'est là le point où, de fait, on doit purifier la pensée d'Aristote par rapport à la quintessence ? Un problème très important et très intéressant qui doit s'étudier en parallèle avec la lumière et qui vaut la peine d'être étudié. Saint Thomas a pris tout cela à son compte, ce qu'Aristote a dit. C'est la science moderne qui nous oblige d'aller plus loin qu'Aristote. Dans cette vision de l'univers, l'astronomie d'Aristote ne peut plus être soutenue pour nous. Pour Aristote, l'astronomie fait appel aux mathématiques. Et comme les mathématiques se sont beaucoup développées, Aristote, c'est bien évident. Et avec les mathématiques, toutes les sciences modernes, on comprend très bien que c'est à l'égard du monde céleste que par l'astronomie qu'il y a une rencontre et une critique possible à faire par rapport à l'astronomie d'Aristote. Ce n'est pas la physique, mais c'est l'astronomie. Et l'astronomie est posée, du moins par l'astronomie, est posée à la quintessence, pas par la physique directement. C'est par l'astronomie, c'est les corps célestes. Seuls les corps célestes ont la quintessence. Pour Aristote, les corps célestes ne sont pas corruptibles. Parce qu'ils ne sont pas corruptibles, ils ont une matière distincte que la matière du monde physique sublunaire. Et ils ont surtout une détermination particulière qui est la quintessence. Alors, c'est là où je crois qu'on doit faire porter toute la critique à ce qu'Aristote nous dit. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne touche pas la physique d'Aristote. Ça touche son astronomie. Ce qui est du reste intéressant à voir, parce que son astronomie fait appel aux mathématiques. Aristote le reconnaît. Étant donné que l'expérience que nous avons des corps célestes est très très faible. Cette expérience que nous avons des corps célestes doit être complétée et achevée par les mathématiques. Alors on a une science subalternée aux mathématiques qui sont l'astronomie. Puisque de fait, notre connaissance sensible des corps célestes est très faible. Alors, je crois, et cela serait important à voir, de montrer que c'est l'astronomie qu'Aristote construit, qui demande d'être corrigée, j'allais dire radicalement, par les sciences modernes qui font elles aussi appel aux mathématiques. Et là, il y a deux visions des corps célestes qui est irréductible. Dans la science moderne, les corps célestes n'ont pas quelque chose de différent dans leur matière, si ce n'est une intensité beaucoup plus grande. L'intensité de chaleur du soleil et des étoiles par rapport à notre monde. problèmes philosophiques, là. Ce sont des problèmes scientifiques. Parce que la philosophie des as que nous donne Aristote ne nous intéresse pas directement. Si on comprend que le philosophe s'intéresse avant tout à l'homme, et que la connaissance de la matière, des dispositions de la matière, sont précisées par les sciences modernes, on accepte que toute la connaissance des astres, le philosophe doit accepter de ne plus dire grand-chose. Je crois que c'est donc, en quelque sorte, l'abandon de la quintessence que nous devons faire. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de juste dans la quintessence. C'est tout ce que nous parlons du magnétisme. C'est-à-dire une connaissance sensible qui n'est pas la connaissance des sensibles propres, mais qui est une connaissance sensible qui, pour Aristote, était la connaissance que nous avions par l'estimative ou la cogitative. Qui connaît dans l'ordre sensible ce qui convient au corps de l'homme et ce qui ne convient pas au corps de l'homme. C'est bien le magnétisme, ça. Il y a pour nous, dans le milieu dans lequel nous sommes, des influences des astres, des influences du soleil, des influences de la lune qu'on ne peut évidemment pas nier. Et certains tempéraments sont particulièrement sensibles à cela, d'autres moins. On reconnaît que le développement de l'intelligence fait que nous sommes plus libres et moins dépendants du milieu physique dans lequel on est. Et d'autre part, le développement de notre intelligence donne à notre sensibilité une acuité toujours plus grande. Et cette sensibilité à l'égard du milieu dans lequel on est, qu'on appelle ça le magnétisme, relève de quelque chose qui échappe aux connaissances proprement scientifiques et qui échappe aux connaissances sensibles. Il y a donc un domaine particulier, sensible, mais qui ne relève pas des sensibles propres ni des sensibles communs, et dont on sait très peu de choses, et que le philosophe pourrait peut-être s'intéresser à cela. Donc vous voyez que là, il y a une matière importante à étudier, qui est la question du magnétisme, qui est la question de le contexte dans lequel chaque vivant vit, et surtout l'homme. Et quelque chose qui serait très important à étudier, mais il faut des astronomes, voir s'il peut y avoir une philosophie qui s'étend jusqu'aux astres. Ce qu'Aristote prétendait, mais il l'a fondé sur quelque chose qui est très difficile à maintenir. philosophie de la nature. Ce sont les éléments et le corps humain. C'est toujours comme ça quand il s'agit du pose. Il faut regarder ce qu'il y a d'élémentaire et de regarder ce qu'il y a de parfait. Or, quel est le corps le plus parfait dans notre monde physique, vu à un point de vue purement physique? Parce que notre corps est un corps vivant. Alors, d'une certaine manière, la philosophie de la nature dit peu de choses, mais elle dit quelque chose sur le corps humain. Parce que le corps humain ne peut être étudié parfaitement qu'au niveau de la vie. C'est un corps vivant. Et au niveau philosophique, en comprenant que ce corps, par l'âme spirituelle, est finalisé par quelque chose qui est au-delà de la vie végétative. C'est important de voir comment on peut étudier le corps humain. Le Saint-Père demande qu'il y ait une philosophie du corps. Il l'a demandé. C'est donc la philosophie de ce pose physique qui est le corps physique le plus parfait. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que c'est le point de vue physique le plus parfait? C'est-à-dire le plus capable d'être un corps vivant. C'est toujours par le point de vue supérieur que je juge l'inférieur. Notre monde physique, de fait, s'achève dans un monde de vivant, animal. Et le monde animal est plus parfait que le monde purement physique. Il y a des liens très forts entre ce monde physique et ce monde animal. Et des liens importants à voir. Mais je ne peux le comprendre parfaitement qu'en regardant le monde physique dans la lumière du vivant. C'est le vivant qui éclaire le monde physique. Et quels sont les liens qui existent entre les deux? Je crois que c'est en étudiant le corps humain, puisque c'est le plus parfait. C'est pas en regardant le feu, les éléments physiques, que je comprendrai les liens qui existent entre le monde physique et le monde des vivants. Les éléments sont incapables d'être vivants, puisqu'ils sont trop bruts, trop simples. Il faut la complexité des quatre éléments pour former un corps capable d'être informé par un souffle de vie, informé par un principe de vie. C'est vrai, le moindre vivant implique une complexité physique extraordinaire. C'est le grand principe que prend Teilhard lorsqu'il étudie le passage du physique au biologique au vivant. Il montre que la complexité est ce qui permet le mieux de voir ce passage entre le physique et le vivant. Et plus nous sommes en face d'un vivant parfait, plus la complexité est grande. Et donc c'est dans le corps humain qu'on aura la plus grande des complexités. Ce qui est vrai, le cerveau. pour l'étude du corps humain. Mais que l'étude du corps humain ne peut se faire parfaitement que par le point de vue de la source de vie, l'âme. Et que ce corps humain ne peut être étudié parfaitement qu'en comprenant son ordre à la vie spirituelle. Vous voyez comment l'étude du corps de l'homme est relative à la vie, est relative à l'esprit. Et je ne peux saisir philosophiquement ce qu'est le corps de l'homme qu'en voyant ce dépassement du monde physique par le monde des vivants. Et le dépassement du monde des vivants par le point de vue de l'esprit.